Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans cette deuxième partie du podcast de So Sweet Planet avec Marion Chéniaud-Dupuy pour nous parler de son livre « Respire, tu es vivante, de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle ». Tu dis que tu as avoué à Tador, donc Tashi Dorji, être attaché à une vision idéalisée des nomades et qu'il t'a aidé à déconstruire ça et à voir un autre aspect qui m'a rappelé d'ailleurs ce qu'on m'avait décrit de ce qui se passait dans le nord, le grand nord canadien aussi, avec malheureusement des choses un peu similaires.
Oui, des certaines dérives dans les comportements des jeunes et des moins jeunes, hein, sur la picoler, faire la dépenser,
les jeux,
voilà, dépenser tout son argent dans les jeux, ou et puis voilà, des histoires de perte d'animaux, ou après il y a des bagarres entre eux parce que pour savoir qui voilà, donc ça.
Mais toi, tu n'avais pas été en contact avec cette partie de la population qui...
Bon, en fait, ouais, là j'ai eu encore un travail à faire sur de déconstruction de tous mes masques. Comme mon maître du monastère où j'ai fait mes études en Inde est lui-même nomade, j'avais une image très naïve du nomade tibétain et toute sa bonté, sa bienveillance, voir les liens d'interdépendance, prendre soin de la nature, s'adapter tout le temps au changement, voir la permanence partout. Donc je m'étais fait un portrait assez théorique de tout ça. Tout ça est vrai, c'est-à-dire que en fait ils ont des racines tellement profondes dans toutes ces valeurs-là d'interdépendance, d'impermanence, de bienveillance et de prendre soin de la nature, qu'en fait à première vue, bien sûr, ça reste complètement incarné et bien sûr, ils sont les détenteurs de cette sagesse. Simplement, la nature humaine de aussi être attirée par toutes sortes de nouvelles réalités clinquantes, qui avoir des motos, des montres, des téléphones, s'amuser avec l'argent, s'amuser avec les filles, avec l'alcool. Tout ça, en fait, bien sûr, c'est un passage quasiment indispensable pour se confronter à des réalités de la modernité et de faire des choix après de ce qu'ils veulent garder ou pas de cette modernité. Il y a déjà des réalisateurs de films tibétains, Pema Tseden notamment, qui a fait un très beau film qui s'appelle Tarlo, qui montre tout le parcours d'un nomade qui lâche son troupeau parce qu'il a trouvé une jolie fille tibétaine dans la ville qui a un salon de coiffure. Et qui l'emmène dans les karaokés, boire, et il a besoin d'argent pour la séduire et rester avec elle. Donc il abandonne son métier d'éleveur nomade. Et puis après, il se retrouve avec rien. Donc ce réalisateur tibétain montre bien comment en fait, les Tibétains sont conscients eux-mêmes de cette déperdition dans des comportements qui sont à l'opposé des valeurs tibétaines à l'origine. Et comment ils essaient déjà, en prenant conscience de ça, d'éduquer même la jeune génération à faire le tri, en fait, entre ce qui est bon ou pas pour eux dans la modernité.
Et donc là, en fait, tout ce que tu as fait jusque-là va être mis à profit, puisque tu étais déjà guide de trek. Tu vas devenir guide de trek spécialisé en écotourisme et en himalayisme, puisque cela fait déjà un bon moment que tu crapahutes sur des sommets. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une activité très présente dans ta vie à ce moment-là. Et donc, des sommets qui sont ou le toit du monde, ce qu'on appelle le toit du monde, l'Everest lui-même, ou autour de ce toit du monde. Et là, c'est comme une nouvelle quête, en fait, et ça prend quand même apparemment beaucoup de place dans ta vie. Il y a la partie, si j'ai bien compris, financière, pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et puis, il y a un vrai goût quand même aussi qui s'installe de ces escalades très extrêmes quand même, vues d'ici.
Oui, c'est bien résumé. C'est avant tout un gagne-pain, et puis c'est après aussi une manière de retrouver en fait l'ambiance aussi un peu de retraite dans les grottes qui m'attire tant, parce que j'aime l'isolement, j'aime pouvoir entraîner l'esprit dans des contextes différents, variés, et puis parfois extrêmes, pour être vraiment confrontée à voilà, cette frontière de voir mes peurs, les traverser et puis de toucher voilà, sur la partie extrême en moi, c'est de arriver à renforcer en fait la force de détermination sur des questions justement de choix, de quelle est ma posture mentale à ce moment-là. Est-ce que je suis dans la connexion, la bienveillance, la compassion envers les autres, ou bien est-ce que je suis attachée à mes propres records ou mon besoin de performance et d'accomplissement de soi, et de pouvoir vraiment me confronter à des situations extrêmes en très haute altitude où finalement tout me pousse en fait à basculer du côté de la quête de toujours plus de records, et au lieu de ça je peux arriver à transformer cette habitude dans une posture justement complètement opposée, hein, qui va être, je crois, la transformation la plus radicale et la plus, après, durable dans tout ce que je peux redescendre finalement avec de la montagne quand je reviens sur les plaines. C'est voilà, quelle part de moi en fait a grandi, et est-ce que c'est celle qui aime plus, qui est plus sensible au bonheur de l'autre, ou bien est-ce que c'est celle qui veut se mettre en avant, qui se croit importante, qui se croit supérieure, voilà. Donc ça, je trouve que c'était un terrain de jeu assez remarquable pour observer tout ça.
Oui, on voit d'ailleurs que ta bienveillance a dû être parfois mise à rude épreuve, parce que donc l'arrivée des alpinistes, des trekkers que tu accompagnes, et en fait qui te laissent souvent perplexe. Tu dis, pourquoi les étrangers viennent-ils de si loin et paient-ils si cher pour atteindre le sommet alors que c'est exténuant et risqué ? Quelle est leur motivation ? Je vois arriver des trekkers avec des sacs à dos bien remplis et à l'esprit toutes sortes d'idées préconçues sur le pays et les peuples qui l'habitent. Je les trouve bien encombrés. Je parle peu, me contente de gérer les problèmes logistiques grâce à ma connaissance du terrain. Cette expression m'a fait rire, bien encombrée. Tu les trouves bien encombrés, l'image me plaît bien. C'est une formulation assez aimable pour décrire ces personnes qui n'ont pas l'air toujours si aimables. Et ça devait être un peu pénible, non, à englober ces comportements.
Oui, donc ça, c'est plus au début de mon parcours de guide. Donc là, je commence, j'ai 23 ans. Et à ce moment-là, ouais, je suis encore pleine de jugements envers ceux qui viennent. Voilà, je l'ai décrit un peu comme encombrée. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'ils le sont de manière générale. Hein. C'est plus voilà, comment en fait, les Occidentaux, les sociétés occidentales mettent le mental ou l'intellect avant toute chose. Et c'est difficile de se défaire en fait, de ses bagages, donc c'est ça le côté un peu encombré, c'est encombré par le mental.
Oui, j'ai bien compris, oui.
Donc simplement, voilà, ça me remet aussi face à mes propres jugements, mes propres évaluations, parce qu'en disant tout ça et en pensant tout ça, je suis moi-même bien encombrée de cette perception que j'ai de l'autre qui me, voilà, qui à ce moment-là me coupe. Alors voilà, du coup, je suis un peu distante, je me préoccupe que des questions de logistique. Mais petit à petit, toute cette attitude de différenciation, de distanciation avec l'autre se dissout vraiment grâce à la proximité que j'ai aussi avec les équipes locales, des guides de haute montagne après, plus tard, qui vont venir sur mon chemin et me montrer avec tant d'humilité combien... Voilà, eux, en fait, ils ont fait des prouesses incroyables sur les plus hauts sommets, et pourtant, ça ne leur empêche pas de rester hyper simple et de garder cette chaleur humaine.
Et de ne pas s'en vanter.
Et de ne pas s'en vanter, jamais.
Ils écoutent les étrangers qui se vantent de leurs prouesses, et eux, souvent, ils ont réalisé des exploits beaucoup plus importants, et en fait, ils les écoutent humblement, et ils ne le disent même pas, quoi. Ils les laissent parler.
C'est ça, il y a vraiment une légèreté dans cette manière d'être avec soi-même, avec l'autre, parce qu'il n'y a plus vraiment de question de mettre en valeur sa propre importance.
Oui, de vouloir impressionner ou de...
Ouais, donc ça m'a beaucoup réconfortée pendant plein d'années. Ça met beaucoup de temps, hein. C'est entre peut-être 10-15 ans pour trouver moi-même suffisamment à l'aise dans mes rapports avec les autres pour oser communiquer, prendre même en charge des responsabilités au sein d'un groupe pour mobiliser des équipes, être leader de projet. Donc c'est une reconnexion très progressive qui a demandé voilà, de laisser partir toutes mes idées préconçues sur l'autre, sur les jugements que je pouvais avoir. Et c'est ça le fameux travail d'apprentissage de la compassion.
Alors, tu décris aussi cette période où ta vie d'austérité est de plus en plus rattrapée par le monde extérieur et tes résolutions, tes vœux de chasteté commencent à tanguer. Tu dis comment concilier vie intérieure et plaisir extérieur. Donc là, on sent que tu n'en es plus à tout rejeter, mais tu cherches à concilier.
Oui, donc là, il y a déjà eu l'effondrement de ce masque que je m'étais donné, donc d'une personne spirituelle qui se donne un air. Donc finalement, je me réinvente avec vie à l'ASSA, à l'université, puis avec mes amis sur les hauts plateaux, les nomades, les guides de montagne. Donc en tant que non laïque, donc non, c'est au sens de mon souhait en fait premier de contribuer à soulager la souffrance et à apporter du bonheur pour les autres reste identique. Donc c'est la raison d'être. Vivante et de participer à ce qui se passe dans ce monde. Simplement, la forme que ça va prendre, ce ne sera pas voilà, conventionnel au sens d'une vie monastique, de prière ou de dévouement même à une cause. Alors, je souhaite me mettre au service. Donc, c'est un thème que j'aborde très souvent dans mon livre. Qu'est-ce que c'est que le service désintéressé ? Mais voilà, j'accepte le fait que je serai laïque et donc je vois toute mon énergie de vie, de force de vie et d'énergie sexuelle qui me traverse à l'âge où...
Oui, parce que tu es toute jeune pour faire des vœux de chasteté.
Ah oui, en fait, je...
À ce moment-là.
J'observe tous ces jeux en fait, de tiraillement. Qui se joue en moi avec des élans, donc d'énergie qui a envie de s'exprimer et qui sont un peu réprimés par l'idée que la discipline, même si elle est plus celle du monastère qui m'avait accueillie du temps où j'étais en Inde, reste un peu la colonne vertébrale d'une vie spirituelle sérieuse au quotidien. Avec une pratique de méditation au quotidien. Et donc voilà, je continue en fait de faire des retraites très régulièrement, de suivre les enseignements bouddhistes. La terre même du Tibet en fait me rappelle constamment mon engagement de contribuer au bien-être des autres. Donc je suis quand même dans une forme de cadre, rappel continu de cette voie spirituelle. Mais elle est plus authentique, je crois, plus sincère dans la mesure où je suis quand même obligée de regarder tout ce qui se passe en moi parce que je suis confrontée à toutes les réalités d'une la jeunesse et toute la déperdition même qu'il peut y avoir aussi à l'ASSA dans les soirées karaoké, discothèque, alcool, etc. Donc en fait, on a même décidé à cette époque-là avec un groupe de jeunes de mon âge de créer nos premiers projets sociaux au sein même des karaokés dans les bars. Pour en fait montrer que à la jeunesse qu'il y a des moyens en fait de passer son temps de manière plus constructive en apprenant les langues, en faisant des conférences culturelles sur différents sujets et puis même en faisant venir des orphelinats pour faire des spectacles dans les karaokés hein, pour montrer que c'est là même où il y a le plus de déperdition, enfin de dérive. Qu'en fait, oui. Il y a le plus besoin de retrouver un axe et de se réaligner en fait sur ses valeurs tibétaines d'origine.
La distraction, il en faut aussi, quand même un petit peu.
Oui, alors la distraction, si elle est choisie, si elle est consciente, oui, elle permet de relâcher la soupape si la pratique spirituelle devient un effort. Ce qui ne devrait pas être le cas, hein, mais trop prégnant. Et que voilà, il y a besoin de se décompresser. Donc oui, là, la distraction peut aider.
Alors donc, tes liens, tu l'as dit, hein, avec les guides tibétains ont l'air très forts aussi. Tu dis qu'avec eux, tout se fissure, que tu crains moins de te relier aux autres, que ton ouverture du cœur est balbutiante, mais qu'elle est réelle. Comment tu décrirais ces liens avec eux ? Est-ce que tu étais toujours la seule femme d'ailleurs ? Parce que en guide de trek, Moi au Népal, j'ai toujours vu que des hommes. Il y a peut-être des femmes aussi que je n'ai pas vues d'ailleurs, mais
oui, elles sont très très rares. Elles sont vraiment très rares. Donc, moi au Tibet, j'étais toujours la seule femme. Non, ça m'a pas spécialement perturbée.
Et eux ? Ça ne les a pas perturbés.
À vrai dire, je ne sais pas trop, mais j'ai eu quand même beaucoup de chance dans tout mon parcours de rencontrer plutôt des personnes bienveillantes envers voilà, à qui j'étais.
Oui.
Donc, non, simplement, je me suis... Oui, comme je disais, toute cette peur de l'autre s'est fissurée petit à petit, hein, parce que les contacts étaient vrais, parce qu'il n'y avait pas de, justement de superficialité dans une forme de narcissisme, ou de, on allait droit à l'essentiel dans souvent la survie en montagne, parce qu'en fait, on était voilà, autour d'un camp, à essayer de cuisiner, à manger correctement, dormir, et puis repartir, donc... C'est...
Oui, parce que tu expliques qu'il y a des, il y a donc en, quand on monte l'Everest, il y a des paliers, des camps qui forment des paliers sur lesquels vous vous arrêtez, vous dormez. Je ne sais pas trop combien de temps, vous restez juste une nuit ou...
Oui, généralement on reste une nuit, puis on monte ou bien on redescend. Et puis après, une fois qu'on est redescendu, on recommence à remonter. Donc en fait, on fait des allers-retours sur la montagne pendant.
Pour l'Everest, et pourquoi vous montez et vous redescendez ?
Ça dure 2 mois, ouais, pour l'Everest, parce qu'en fait, on s'acclimate.
La montée dure 2 mois ?
Ben, les allers-retours. On fait les allers-retours par palier. Donc, par exemple, si je suis...
Ah oui, donc en fait, quand on dit 8000,
je ne sais plus combien, 48.
En fait, vous faites 3 ou 4 fois ça, quoi.
Oui, oui, oui. Ah, oui.
Avec vos allers-retours.
Ah oui, minimum.
C'est pas du tout le...
Minimum 3 ou 4 fois.
En termes de distance.
Ah, ah oui. Oui. Donc là, oui, non, c'est une acclimatation très progressive, parce que l'organisme est incapable de s'adapter, en fait, à une zone sur Terre où il y a aussi peu d'oxygène, en fait, où le corps ne peut pas absorber suffisamment d'oxygène. Donc, on n'a que 30%.
Malgré les bonbonnes.
Alors, on prend voilà, de l'oxygène en complément, mais ça reste, c'est un complément, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on absorbe comme oxygène au niveau de la mer ou même des altitudes on va dire, moyennes. Donc là, l'organisme est complètement dysfonctionnel. Il a besoin d'être progressivement en fait, amené à reprendre des nouveaux mode de fonctionnement pour fonctionner avec aussi peu d'oxygène. Et ça prend, voilà, pour l'Everest, généralement 2 mois sur la montagne. Donc voilà, on a beaucoup de temps pour apprendre à se connaître, on fait des veillées, on fait des... c'est le moment aussi où j'encourageais les guides tibétains à raconter toutes leurs histoires, justement, de liens sacrés entre l'homme et la nature aux personnes qui venaient de différents pays sur ces expéditions pour comprendre... cette conscience écologique tibétaine si ancienne.
Mais du coup, tu servais de traductrice aussi ?
Oui, 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 de traductrice. J'avais donné des cours de médiation culturelle pour que les Tibétains apprennent à présenter leur propre culture à des personnes de culture étrangère. Et je faisais aussi parfois des médiations interculturelles entre deux groupes de cultures différentes pour qu'ils arrivent à se comprendre et parfois, souvent d'ailleurs en période de crise, qu'ils puissent trouver des moyens de se comprendre pour trouver des solutions en commun.
Mais toi, en fait, qu'est-ce qui t'attirait vraiment dans ces expéditions ? Parce que tu dis c'est très dur, il fait froid, les conditions de vie sont extrêmes, il y a beaucoup de risques, la mort rôde, tu parles de squelettes parfois de gens que tu connaissais qui jonchent le parcours.
Alors non, des cadavres, pas les squelettes, des cadavres.
Ah oui, des cadavres, oui, bon, c'est pas tellement plus réjouissant. Où était le... Parce que j'imagine qu'il y a forcément du plaisir, quelque part. C'est pas possible de ne faire ça que... C'est pas non plus une expérience masochiste. Il y a forcément un... Qu'est-ce qui te plaisait dans ces expériences ?
Bah, en fait, à ce stade-là de mon parcours, je suis pas tellement attirée par des expériences de chercher mon plaisir à court terme. Je suis déjà en fait engagée dans une mission que mon maître m'a donnée depuis que j'ai 22 ans, qui est d'aider en fait les Tibétains à préserver leur culture et à restaurer l'écosystème du plateau tibétain. Donc quand je suis sur la montagne, j'ai avant tout en tête cette mission et simplement je m'adapte à leur contexte de vie en très haute montagne, donc de ces guides tibétains, pour les accompagner au plus près des réalités auxquelles ils font face et comprendre donc leur force et leur faiblesse. Donc, je comprends que leur force, c'est leur lien d'être nombreux aussi pour s'entraider sur la montagne. Donc, dès qu'il y en a un qui faillit, il y en a un autre pour l'aider. Du coup, ça m'apporte énormément parce que je vois leur qualité intérieure. Je vois aussi leur humilité. Donc, ça, on en a beaucoup parlé, mais je le redis. parce que c'est absolument essentiel de comprendre ça chez eux, que face à la montagne, en fait, leur qualité d'humilité leur permet d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'ils ne sont pas en situation de conflit ou de combat, plutôt face à la montagne.
De vouloir dominer.
Voilà, d'aller à l'assaut du sommet de la montagne. Mmh. Et ils vont plutôt avec, dans une relation de donner, de recevoir, donc de prendre soin de ce qui les entoure. Et donc il y a beaucoup de rituels, d'offrandes, de prières, de nourriture, de souhaits à la montagne, pour qu'elle, la montagne, la déesse sacrée, la déesse de l'Everest, elle s'appelle Jomolangma. Ça veut dire la déesse mère éléphant. Elle est protectrice du monde. Elle habite sur l'Everest. Elle est même la montagne elle-même, en fait, est la déesse. Donc, quand on est sur ses pentes, on est en train de lui grimper dessus. Donc, c'est important de l'honorer, de rentrer en relation avec elle. Et donc, ça, c'est une force parce qu'ils savent aller avec plutôt que se battre contre les éléments. C'est ce travail de conciliation, en fait, d'être à l'écoute de ce que la montagne a à leur dire. C'est-à-dire que là, par exemple, en observant le ciel ou la neige, ils peuvent détecter, en fait, tout ce que ça implique de lien, en fait, avec toutes les conditions météo qui vont à venir, des potentiels dangers, de meilleurs choix d'itinéraires, etc. Donc, si l'homme est à l'écoute de la nature lui donne en fait beaucoup d'informations sur comment bien vivre avec elle. Donc en fait, il n'y a rien d'expertise à aller chercher, scientifique, super techno développé, etc. Il suffit simplement d'être ouvert et d'être à l'écoute. Et ça, ce sont des qualités qui sont remarquables, qui m'ont permis de m'ouvrir en fait petit à petit à la confiance que l'humain n'avait pas perdue en fait cette sagesse. C'est plus qu'une sagesse même, c'est un mode d'être en interdépendance avec son milieu, avec la nature, et de vivre vraiment cette non-dualité même. C'est-à-dire que c'est pas l'homme séparé de la nature, c'est vraiment l'homme qui appartient à la nature, qui fait un. Et quand je vois que c'est incarné chez un certain nombre de personnes, que ce soit les nomades ou les guides de haute montagne, bah, tout d'un coup, mon cœur s'ouvre et puis je me dis « Ah mais en fait, en tant qu'humaine, moi aussi, en fait, je ne suis pas séparée de la nature. » Et finalement, je peux être pleinement ce que je suis en restant connectée à ce qui m'entoure. Et il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation. Du coup, je me détends en fait. Tout d'un coup, je suis bien en fait, ça respire entre l'extérieur et l'intérieur, et les solutions, les idées, la créativité, l'inspiration viennent beaucoup plus naturellement. Il y a même une clarté de l'esprit qui vient de cette osmose, cette vision non-duelle de l'homme à la nature. Mmh. Et je la souhaite après à tous ceux qui sont sur cette voie et de savoir que oui, c'est bien là d'où on vient et on s'en est juste éloigné par une malencontreuse et ignorance ou je sais pas, vision qui s'est retournée vers l'humain séparé de là d'où il vient, la nature. Mais ça peut se retrouver, ce lien peut se retrouver.
Oui, bah oui, puisqu'il y a des preuves vivantes encore un peu partout, heureusement, enfin partout, pas tellement partout d'ailleurs, mais dans certains endroits de la planète. Et là, on a vu avec la pandémie de coronavirus fleurir dans nos médias, en presse écrite ou sur Internet, de nombreuses tribunes de scientifiques, d'écrivains, d'intellectuels, d'écologistes, plus ou moins activistes, sur le fait de renouer avec le vivant, de sortir de notre posture en tant qu'humain, d'humain qui se croit au-dessus du reste de la nature, de reprendre notre place au milieu de cette nature, de ne pas nous en penser, de ne pas nous en extraire et nous penser comme des choses extérieures à cette nature, comme si on n'en faisait pas partie. Et donc c'est intéressant d'entendre qu'au moment où il faut qu'on fasse des grandes choses très cérébrales pour réussir à reformuler ça avec des mots, et on se dit bah oui, mais regarde là-bas, ça existe quoi. Et dans plusieurs endroits dans le monde, c'est pour ça qu'actuellement j'ai entendu qu'il y avait aussi pas mal de recherches qui étaient faites, de retourner aller voir en Amazonie ou dans d'autres régions comment ces populations ont réussi à préserver leur environnement, ce que nous, on n'arrive plus à faire. Quoi. On est,
Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse sur la force du récit. C'est pour ça que je me suis finalement laissée convaincre d'écrire le parcours de ce que j'ai vécu ces dernières années, depuis ces 40 dernières années. C'est qu'en fait, je crois très fort en la force du récit pour, comme levier vraiment de mobilisation pour justement reprendre confiance dans la capacité qu'on a tous à retrouver le lien perdu avec la nature et de se réinventer des possibles justement de retour à ce lien avec toutes formes de récits différents, toutes sortes de visions, d'imaginaires possibles pour retrouver ce lien.
Et il y a aussi un petit passage assez amusant sur les réseaux sociaux, un autre piège qui t'a tendu les bras et dans lequel tu avoues, malgré tout ton entraînement de maîtrise de soi, être tombé la tête la première, ce qui montre bien, je me disais en le lisant, ce qui montre bien la puissance incroyablement addictive des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce petit passage de ta vie là ?
Je crois que ça a beaucoup à voir avec la motivation, en fait, de pourquoi je communique et qu'est-ce que je communique et qui en moi communique. C'est pas vraiment le pourquoi j'ai envie de communiquer, c'est plutôt qui a besoin de se connecter. Et c'est naturel, cette envie de lien les uns avec les autres. Et fondamentalement, c'est quelque chose qui nous nourrit. Simplement, voilà, quand il n'y a pas de discernement sur la part en nous qui veut en fait se mettre en valeur ou avoir cette importance de soi, en fait, les réseaux sociaux s'emparent.
Parce que c'est du lien.
Mais voilà, mais en fait, ils s'emparent de cette fragilité qu'on a tous d'avoir envie en fait, de briller, de se montrer, d'être dans d'avoir le plus de j'aime possible.
C'est pas que du lien, il y a l'envie de s'exposer.
Il y a tout ce qui se met par-dessus.
Et donc, toi, le petit démon est entré sous la forme d'un smartphone qui est arrivé dans ta vie.
Oui, en plus, qui m'avait été donné par une réincarnation d'un lama tibétain, donc un jeune réincarné qui me donne son smartphone parce qu'il en avait plein, parce qu'il avait plein de disciples qui lui donnaient des smartphones. Donc, je me...
Ah oui, c'est le... les offrandes ont changé avec les époques.
Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec ça en main. Et puis, je me dis que je peux faire des belles photos, je fais des vidéos. Et puis, je me fais prendre au jeu de tous les jours, poster quelque chose. Et puis, en fait, de vivre l'expérience que je vivais en montagne à travers ce désir, cette volonté, en fait, exacerbée de me mettre en avant. C'est pour dire les choses simplement.
Oui, et on comprend aussi que tu te laisses, parce que toi, tu te retrouves, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des endroits maintenant qui sont complètement détruits au niveau environnemental parce que c'est le bon spot pour prendre la photo avec Instagram, pour prendre son selfie. Toi, pour prendre des selfies, tu avais quand même un cadre assez exceptionnel et on comprend que ça ait séduit beaucoup de gens et que tu te sois prise au jeu, quoi.
Oui, et puis à l'époque, j'avais des amis dans le milieu artistique du rock tibétain. Donc, je me baladais avec leur drapeau sur les différents camps pour faire des petites vidéos et leur envoyer pour qu'ils le diffusent dans leur bar. Et il y avait tout le public, donc de la jeunesse tibétaine qui me connaissait, qui me suivait. C'était assez grisant. Et j'avais une popularité à la SA qui montait. Et puis... moi, j'y voyais une sorte de montée en puissance de l'importance de moi et ça me plaisait.
Oui. Bon, mais tu en es sortie, donc. Et tu vas ensuite devenir, alors là, dit comme ça, ça semble moins prestigieux, mais en fait, ça l'est beaucoup plus, puisque tu vas ensuite devenir, comme tu t'intitules toi-même, éboueuse de l'Everest. Cette idée qui a dû sembler un peu folle au début de nettoyer l'Everest, côté tibétain donc. Donc cette idée, elle t'est venue comment ? En grimpant, j'imagine, en constatant les dégâts. Mais l'idée de te mettre toi-même à la tête de cette entreprise assez audacieuse.
Alors là, c'est parfait. La perche m'est tendue pour justement pouvoir rectifier un peu la manière dont ça s'est produit. C'est qu'en fait, je ne suis pas à l'initiative. C'est malheureusement des efforts médiatiques de vouloir starifier une personne pour en faire un héros de l'écologie. Moi, c'est
très bien, merci de rectifier.
C'est vraiment à l'opposé de ce que je voilà, prendre comme message. Et moi, je me sens porte-parole, en fait, d'un collectif de personnes mobilisées pour nettoyer la montagne. Il se trouve que ces personnes, donc, c'est l'école de guide des hautes montagnes à la Saint, qui m'ont mandatée pour les aider à monter un projet, effectivement, de réintroduire les valeurs tibétaines de respect de la nature au sein de leurs expéditions, donc qui avaient lieu 2 fois par an, au printemps et en automne, essentiellement pour une clientèle chinoise au départ. Puis après, on a réussi à impliquer en fait toutes les autres expéditions internationales de tous les pays pour se mobiliser sur la montagne pour nettoyer les déchets. Donc c'est parti vraiment d'un groupe de guides tibétains, ensuite donc suivi par le gouvernement local qui a apporté des ressources, des yaks pour faire descendre les sacs de déchets.
Donc le yak, c'est un animal que l'on ne connaît pas ici, mais qui est un, comment le décrire d'ailleurs, qui est un énorme...
Comme un bœuf, mais avec des cornes, oui, voilà. Et beaucoup plus poilu.
Des poils plus
longs. Voilà, qui peut faire jusqu'à 1 tonne de... Ça a une masse quand même assez imposante, toute noire, généralement, enfin foncée.
On utilise son lait.
Oui, alors la femelle du yak, la ji, fait un lait qui sert beaucoup dans l'alimentation tibétaine. Et ils arrivent à monter ces fameux yaks jusqu'à 6500 mètres d'altitude. Donc, ils jouent un rôle crucial pour la réussite du projet de redescendre les déchets. Ils font des rondes, en fait, sur la montagne pour redescendre au fur et à mesure qu'on collecte ces fameux sacs remplis de déchets. Et alors, comment est venue l'idée ? Voilà, c'est en fait... Enfin, moi, j'étais simplement mandatée pour aller voir quels étaient les besoins de dépollution. Donc, je fais un diagnostic, un peu une évaluation de combien de tonnes de déchets il était resté depuis 30 ans d'expédition commerciale. Il n'y avait eu pas tellement...
Donc, sur les différents camps et le long du trajet et jusqu'en haut.
Oui, jusqu'en haut avec tous les cadavres, etc.
Avec tous les ?
Avec les cadavres. Le nombre de cadavres, ouais. Donc, en 2013, j'ai été là-haut une première fois jusqu'au sommet. Mmh. Donc là, évidemment, moi-même, j'ai été quand même très choquée. Je ne m'attendais pas à trouver autant de déchets. Donc forcément, c'est vrai que ça a eu un impact aussi sur ma personne en tant que responsable. J'avais créé un écolabel avec ma société Global Nomade pour promouvoir le tourisme responsable et écologique. Donc forcément, j'étais un peu interloquée de voir... Toute la problématique là-haut, avec la plus haute décharge du monde sur les pentes de l'Everest. Donc, de là est née ensuite une charte. On a commencé avec l'école de guide de montagne à concevoir une charte écologique pour réglementer en fait toutes les pratiques environnementales des expéditions, quelles qu'elles soient de tous les pays menant sur l'Everest et sur les autres sommets. Et à partir de 2016, avec cette charte, on a commencé le grand nettoyage en expliquant en fait à tous les gens qui venaient sur l'Everest qu'on voulait donc mettre en place sur le long terme un vrai modèle de gestion des déchets des expéditions, mais qu'avant de pouvoir faire ça, il fallait commencer par faire table rase sur du passé et enlever tout ce qui avait été laissé de couches et des couches de déchets chaque année. Donc ça a été quand même assez massif comme travail. Il a fallu collecter pendant 5 ans. De 2016 à 4 ans, à 2019. Voilà. 10 tonnes de déchets, camp par camp, voilà, étape par étape.
Donc, combien de personnes, en fait, ont pris part, à peu près ?
Alors, sur l'équipe permanente, ils sont 50, 60 guides tibétains de haute montagne qui reviennent chaque année. Après, il y a les Sherpas népalais, mais eux, c'est pas régulier, en fait. Ils viennent pas les mêmes chaque année. Ils sont aussi plutôt 200, 250. Eux, ils vont chercher les déchets sur les plus hauts camps en altitude. Et chaque kilo de déchets est rémunéré. Donc, voilà.
Ah oui,
ça fait
cash for trash.
Voilà, ça fait une motivation supplémentaire pour redescendre les déchets. Et après, par contre, au-dessous de 7000 mètres, dans toute la zone où il y a le plus de déchets, en fait, c'est à 6500 mètres. Là, c'est des équipes bénévoles qui sont mobilisés chaque année pour aider à collecter tout ce qu'il y a sur place.
Et est-ce qu'il y a la même chose qui s'est mise en place du côté népalais ou pas du tout ?
Alors, côté népalais, ça n'a pas arrêté de changer. En fait, les modalités pour prendre en charge ce problème de pollution. Il y a un comité en fait de contrôle pour la et de réduction de la pollution sur la montagne qui existe depuis longtemps, qui est actif, qui mais qui n'arrive pas forcément à travailler de pair avec le gouvernement pour imposer à travers le gouvernement népalais imposer une charte et une réglementation officielle pour tous les expéditions qui viennent au Népal. Donc il n'y a pas une coordination qui est vraiment optimale parce que s'il n'y a pas des équipes financées par l'extérieur, quand je dis l'extérieur, c'est par d'autres sources que celles du gouvernement local, il ne se passe rien. Donc il y a des années où il y a des super campagnes de collecte de déchets, puis d'autres années il va pas y en avoir. Et en fait, il n'y a pas de réglementation, donc c'est un peu chaotique. C'est...
Bon, alors est-ce que toi, tu as constaté les effets du changement climatique ? Parce qu'on parle beaucoup de la fonte des glaciers dans l'Himalaya, qui est une menace, entre autres pour de nombreux villages qui risquent d'être inondés, mais aussi pour le pergélisol, là, le permafrost dont on parlait tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'articles qui sortent actuellement d'observations qui sont faites. Je regarde régulièrement le Nepali Time. Et là encore hier, il y avait une photo avec où on peut faire bouger le curseur de la souris avant-après sur un des sommets au Népal qui, pour la première fois, il n'y a quasiment plus de neige dessus en 2 ans. C'est une photo avant-après sur 2 ans. Et ils font régulièrement, là maintenant, des articles sur le sujet. Est-ce que toi, tu l'as observé ou ça reste encore quelque chose d'un peu de nébuleux ? Tu as vu ça très concrètement ?
Oui, moi, je l'ai vu.
Les effets du changement climatique ?
Oui, notamment sur la montagne sur laquelle je vais le plus souvent, sur l'Everest. Donc là, oui, j'ai vu d'année en année vraiment la régression des glaciers, la fonte aussi de plus en plus tôt. Parce que bon, nous, on y va en fait généralement au printemps, mais à partir de juin, ça commence vraiment à fondre beaucoup plus vite que les années passées. Donc, ça fait à peu près 15 ans que j'y vais. Simplement, voilà, c'est vraiment le travail de sensibilisation que j'essaie de faire, de parler de tout ça, de me témoigner des changements que j'ai pu voir, d'expliquer les causes. Il y en a très nombreuses, même au niveau local. Il y a des choses à faire qui pourraient vraiment limiter cette accélération de fond des glaciers. Expliquer aussi les risques. Parce que notamment, les lacs glaciaires, en fait, quand ils sont installés sur des moraines et que finalement, la glace fond et il y a un effondrement complet, en fait, un éboulement un affaissement de terrain qui fait que le lac entier peut, en fait, se débouler dans une vallée et tout remplir. Hein, donc,
ah oui, toutes les populations. J'ai vu des photos de ça, là.
Notamment dans le Rewelling au Népal. C'est vraiment une question brûlante de la fonte, enfin, de l'effondrement de lacs glaciaires. Donc là, en fait, ouais, c'est vraiment ce travail de sensibilisation autour du troisième pôle. Donc, tous ces glaciers, tout ce pergélisol qui sont en train de fondre, de montrer voilà, que c'est une source d'eau pour toute l'Asie qui, si en fait elle est mise à mal sur un très court terme, bah oui, c'est des milliards d'habitants en fait, qui dépendent de l'eau de cette zone qui vont être en problème parce qu'il y a en fait des problèmes de débit. En fait, il y a plus de régulation en fait du débit de l'eau parce qu'en fait avec la fonte plus massive des glaciers, il y a des cours d'eau qui sont des débits qui sont beaucoup trop élevés, hein. Et puis à des périodes de l'année où ça crée des inondations ou voilà, donc il y a des soucis déjà graves qui se profilent, qui se sont déjà montrés d'ailleurs. Ouais, donc là, la question de l'eau, je pense, est centrale sur la sensibilisation pour montrer que bah, il est urgent, oui, de restaurer les écosystèmes et de dépolluer les glaciers. Voilà, c'est une image assez en fait symbolique parce que c'est pas en enlevant les quelques tonnes de déchets sur l'Everest que ça va en fait vraiment améliorer la qualité de vie de toutes les populations en aval sur la question de l'accès à l'eau et de pas avoir tous les dérèglements sur les débits des rivières, le débit d'eau sur les rivières. Mais voilà, c'est une manière de toute façon assez assez percutante, assez assez facile aussi à expliquer comment voilà on utilise le label Clean Everest pour montrer qu'il y a un enjeu de protection des glaciers. Oui. Et ça c'est toujours bon. Enfin, c'est bon,
attirer l'attention.
Voilà, si on n'a pas non plus, voilà, si on fait de la sensibilisation auprès de jeunes qui sont vraiment très sensibles à ces questions d'environnement et qui même le prennent tellement à cœur que ça peut devenir après une source de souffrance ou de détresse pour eux parce qu'ils se voient démunis face au manque de pouvoir d'action face au réchauffement climatique. Et en fait, en étant sensibilisés aussi comme ils le sont maintenant chez les jeunes, c'est une force, certes, évidemment, mais c'est aussi une source d'inconfort extrême quand il n'y a pas les moyens mis en place pour que tout le monde se mobilise dans une direction de protection de la planète. Donc,
ça, c'est ce qu'on vit un peu partout, d'ailleurs, en ce moment.
Oui. C'est vrai que
la prise de conscience angoissante et le constat que les mesures prises pour améliorer tout ça ne sont pas à la hauteur pour l'instant.
Voilà, donc il y a un décalage qui se crée et ce décalage peut devenir même une sorte d'anéantissement pour finalement se détourner du passage à l'action parce que il y a plus les ressources, il n'y a plus l'énergie pour se mobiliser, pour être acteur de ce changement. Et ça c'est quelque chose à vraiment prendre en compte dès maintenant.
Oui, et essayer de garder assez d'espoir et de force, comme tu parles aussi, il y a une expression dans ton livre, l'effort joyeux.
Là, ça me choque.
Voilà, pour réussir à influencer l'environnement dans le bon sens et non pas se laisser influencer par l'environnement qui nous plomberait et nous démoraliserait au point de ne plus de perdre toute capacité d'action. Quoi. Alors, donc je ne vais pas en révéler plus, j'en ai déjà beaucoup révélé et j'espère que tous les petits passages cités et cette discussion donneront envie à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de découvrir ton livre « Respire, tu es vivante ». Je redonnerai les références dans le petit texte de description du podcast. Maintenant, je ne vais pas en révéler plus. Je vais laisser les auditrices et les auditeurs découvrir les derniers chapitres. Tu as donc passé 18 ans au Tibet. Tu en es où aujourd'hui?
Ah ben, je suis confinée comme tout le monde. Hein. Je suis confinée en Europe.
Oui. Donc, bienvenue.
Mon retour en Occident a été un peu précipité.
Fracassant. Voilà.
Non, j'en suis vraiment à la reconnexion avec le monde occidental. Bon, heureusement, je n'ai pas complètement perdu la langue française. Donc, j'arrive à partager à l'oral et puis à l'écrit ce qui m'anime, ce qui est vivant, en tout cas pour moi en ce moment. Et sans parler de transmission, parce que ça, je ne suis pas trop dans cette logique-là. Je suis plus vraiment dans une logique d'intelligence collective. Donc maintenant, je me sens juste appartenir à une communauté d'acteurs dans ce monde qui se sentent unifiés à la nature et qui font monter en eux cet éveil de conscience écologique et qui le font en se partageant les uns aux autres aussi leurs récits, leur parcours, leurs idées, leurs insights, leurs déclics. Et ça, c'est vraiment, je crois, la première étape de reconstruction d'un futur avec des espoirs lucides, comme dit Arthur Keller, que j'écoute, qui est source de liens, source d'envie d'être ensemble. Et ouais, puis même, je parle à la fin de mon livre, en fait, quand même d'être ensemble, oui, mais vulnérable ensemble. C'est-à-dire, je repars en fait au point de départ qui était la vérité de la souffrance. Donc, j'ai envie de parler de vulnérabilité comme même projet politique pour construire le futur de demain. Et voilà, prendre la souffrance.
Est-ce que tu entends alors par vulnérabilité?
Mais justement, là, c'est...
On n'en a pas une idée très positive quand on le dit comme ça.
Mais de la même manière qu'en fait, le début de mon parcours était finalement comme point de départ la souffrance, la vérité de la souffrance qui m'a chamboulée, qui m'a réveillée. De la même manière, sur la question en fait, de prendre comme point de départ sa vulnérabilité, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire avec des limites, avec des écosystèmes qui sont fragiles, des ressources qui sont limitées, des réalités en fait qu'on ne voit plus. Et c'est cet aveuglement qui finalement donne toute cette toute puissance à l'homme d'agir comme il le fait aujourd'hui. Et alors en fait, il suffit simplement de reconnecter avec sa vulnérabilité pour se rendre compte qu'en fait c'est une force, c'est-à-dire une force de lucidité, hein, pour ce genre-là, parce que ça me paraît tellement évident.
Oui, non mais ça ne l'est pas.
Mais bon, mais voilà.
Et juste pour terminer, parce que par rapport à tous les projets que tu as mis en route, est-ce que tu es désengagée ou tu es toujours active sur tout ça? Parce que là, actuellement, avec la pandémie de Covid, j'imagine qu'au Tibet, par rapport à toutes les expéditions, le trekking, escalade, tout ça, ça a dû être aussi, puisque l'Everest était fermé.
Oui, toutes les expéditions ont été annulées. Moi, j'ai participé à la phase d'annulation et de décision demandée aux équipes de ne pas venir. Bien sûr, oui, donc c'est une année que je vis comme tout le monde, de manière assez frontale dans les grandes secousses. Donc oui, non, sur les projets, si la Chine continue de bien m'accepter et pouvoir m'accueillir sur son territoire pour que je continue les projets.
Avec Global Nomad,
oui,
donc.
Voilà. Je compte bien sûr continuer et même déployer encore plus toutes les actions déjà mises en route.
Bien, il va me rester à te souhaiter une bonne continuation.
Merci.
Avec tout ça, que tu puisses toi aussi continuer tes projets, ouais. D'autant plus qu'il y a pas mal de monde maintenant qui est relié à ces projets, hein, de Tibétains qui eux-mêmes, j'imagine, sont aussi en difficulté par rapport à tout ce tourisme qui n'est plus là. En tout cas, on va se focaliser pour terminer sur l'aspect plutôt positif de tout ce que tu as mis en place. Et donc, du coup, on a hâte de découvrir la suite maintenant.
Merci vraiment de tout mon cœur. Pour cette magnifique échange. Merci Anne et merci à tous les auditrices et auditeurs. Et bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bien prendre soin de chacun de soi et chacun qui nous entoure. Et la Samchouk, l'effort joyeux.
Oui, donc je rappelle le titre de ton livre, Respire, tu es vivante, de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle. Marion Chéniaud-Dupuis, c'est publié par les éditions Masso. Je vais en profiter pour rappeler qu'actuellement, donc depuis quelques jours, le gouvernement a mis en place une initiative qui permet de commander vos livres à des libraires indépendants sur Internet en ne payant plus de frais de port. C'est 0,01 centime sur toutes les livraisons puisqu'ils sont pris en charge par un partenariat entre la Poste et l'État. Donc profitez-en, faites vivre vos libraires indépendants, commandez ce livre dès maintenant. Si cette interview vous a donné envie de le lire, moi en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette aventure, si on peut dire. Je l'ai vécu de loin. Mais... Donc je vais mettre le lien vers les plateformes de libraires indépendants. Marion, merci beaucoup pour ce long échange, pour avoir pris le temps de nous décrire vraiment de façon vivante et beaucoup plus approfondie que ce qu'on peut avoir quelquefois dans des échanges de 15-20 minutes. Donc, un grand merci et j'espère à très bientôt.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.